Le show du matin. Quiet, please. Weekend.
Back. De crotter, là.
Avec Carbo.
Tu fais tout de lui-même, là.
Radio X.
Chasse, pêche et politique. La chronique de Claude Roy.
Pêche, le bruit des vagues sur mon canot. Que je me sauve en courant, que je me décide enfin à lever le gant.
Pas de téléphone, je veux pas savoir ce que font mes jambes. J'ai même pas le goût d'avoir du fun. Je veux rien savoir de personne.
Hey Claude, bon matin, merci d'être là, mon beau Claude.
Bon matin, les amis.
Oh boy, hein? Oh boy. Tu vas me parler d'un sujet enfin que j'aimerais pratiquer cet été parce que je m'en vais pas, je reste dans le coin. Fait que c'est sûr et certain que j'aimerais lancer ma ligne. Puis tu vas me parler du début de la pêche, début de saison. Ça commence quand, hein?
Premièrement, la pêche a presque toujours débuté à ma fête, le 25 avril.
OK.
Ça, c'est le début de la pêche, entre parenthèses, hein, parce que on peut pas pêcher partout. Mais étrangement, ce matin, en m'en venant, j'avais des pêcheurs qui allaient pêcher des petites rivières de ville. Donc, par exemple...
La rivière du Berger.
Oui, Rivière-du-Berger. En arrière de chez moi, j'ai un ruisseau sur Château-Bigot. J'ai une belle rivière qui coule là.
Comment elle s'appelle?
Je sais pas si c'est pas des roches, mais en tout cas, c'est une rivière qui est juste en arrière. Puis il y a un petit garçon qui arrive dans ma cour.
À matin?
Pas ce matin, l'année passée, il arrive dans ma cour. Puis il me demande, écoutez, monsieur, il dit, est-ce que je peux pêcher dans le ruisseau en arrière?
Tabarnouche, j'ai tombé sur le bon gars.
J'ai dit, écoute, ça va me faire plaisir. Attends, je vais aller te donner, je vais aller te chercher des leurres en bas. Pour la rivière qui est ici.
Elle est différente?
Ben, je te dis, j'ai donné des leurres pour la rivière.
Ouais.
Moi, je pêche pas avec des verres de plastique, des verres de terre. Je pêche avec des verres de plastique. J'ai dit, il faut que j'y en donne pour qu'ils puissent prendre du poisson. J'y ai tout installé ça. Il est descendu. Deux heures après, j'étais en train de jardiner. Et il remonte. Il y avait une belle brochette de truite.
Ah oui.
Il était hyper.
Ah oui, si j'imagine.
Parce que dans les rivières à ce temps-ci, la truite est là, elle se ramasse dans des petits secteurs, puis on ne la verra pas pendant l'été, les rivières sont trop basses, mais à ce temps-ci, il y en a partout.
Elle s'oxygène, elle joue dans le courant.
Oui, absolument.
Elle mange les premières bébites qui apparaissent.
Elle va descendre au fur et à mesure que l'eau va descendre, elle va descendre vers des plans d'eau qui vont mieux l'accommoder.
Plus favorable, exactement. Ça. Hey, ça devait être cool.
Oui, c'est le fun, ça.
Tu sais, le petit gars, là, il ne savait pas, mais il est tombé sur le gars de pêche.
Ben, en tout cas, il ne me connaissait pas, mais là, il me connaît un petit peu plus.
Oui, j'imagine. Mais ça, son souvenir va être gravé, Claude.
Ah oui, il y a...
À jamais, là.
Là, il me demande tout le temps. Là, il revient. Ma femme dit qu'elle l'a vu. Les fins de semaine, il vient pêcher dans la rivière en arrière. Ça ne dérange pas personne. Quand les gens sont polis et ils le demandent, par exemple, si tu veux aller pêcher dans la rivière Jacques-Cartier, ben la rivière Jacques-Cartier, dans le coin du Tonam, Tewksbury, tu vas avoir un peu de problème. Les gens sont, je ne dis pas sauvages, ils sont écœurés de se faire piler sur leur terrain,
ben oui.
Puis laisser des déchets, puis les gens font n'importe quoi.
T'es en train de prendre un spa avec ta blonde, elle se fait griser et griller boule à l'air, là, à un moment donné. T'as pas envie d'avoir quelqu'un dans ta cour. Là.
C'est ça.
Puis à part de ça, les chars parqués tout le long. Là.
C'est ça, c'est pas évident. T'as un gars qui fait de la moto comme toi, là, dans ce coin-là, c'est un beau coin pour aller faire de la moto.
J'adore ça, ces équerres, on les appelle les équerres.
C'est ça, quoi des dindes.
Tu t'y connais, Nick, les équerres en moto, tout le monde fait ça.
Quoi des dindes.
Point des dindes, là, tu sais. Mais là, tu te fais écœurer tout le temps, tu sais, c'est normal. C'est pas d'être sauvage. À un moment donné, c'est que t'es chez vous. Mais je comprends ton affaire.
Ben, nous autres, moi, les gens me demandaient, l'autre, donne-nous des coins de pêche. Je l'ai fait à un moment donné dans le cadre de l'émission que j'avais, l'émission de télévision à Télémag. Et j'avais donné plein de coins de pêche dans la région de Québec. Et là, j'ai reçu des plaintes de la part des gens en disant « Vous avez envoyé le monde chez nous. » J'ai pas envoyé le monde dans vos entrées de maison.
Non.
J'ai dit la même chose que j'ai dit ce matin. Vous approchez, vous allez demander la permission. S'ils ne vous donnent pas permission, allez ailleurs. Mais si vous demandez la permission, puis les gens sont conciliants, ils vont vous le donner.
Ouais.
Mais c'est ça qui arrive.
Parce que moi, souvent, j'allais... Mettons une rivière. Tiens, la rivière Nelson.
Oui.
La rivière Nelson part de la rivière Jacques-Cartier.
Oui.
Elle s'en va vers la rivière Saint-Charles.
Oui.
Ou le lac Saint-Charles, même, je te dirais.
Oui, oui.
Puis moi, je prenais la rivière où je pouvais la prendre, donc c'est-à-dire sur le bord de pas sur un terrain, Puis je la marche, la rivière.
Ben oui, c'est ça. Là, t'es dans l'eau.
T'es dans l'eau. Fait mais... que là, t'as marche, la rivière. T'es capable de pêcher. Il y a des trous, il y a des beaux spots de pêche.
C'est comme la rivière Jean-Cartier. Tu fais ça à partir de.
Ben là, c'est pas Sainte-Brigitte le temps. Il y a de l'eau en tabarnouche.
Non, là, tu prendras rien. Là.
Ouais, c'est
mais
ça.
Un peu plus tard en saison, c'est le fun. Il y a des beaux spots qui s'installent.
Oui,
puis c'est une belle
vraiment.
Rivière à pêcher.
Mais là, les lacs, l'autre, sont-ils accessibles?
Non, ils sont pas accessibles. Je voyais une vidéo hier, justement, d'une pourvoirie dans la région de la Mauricie, donc Réal-Massé, tout du coup, ce coin-là, toute la Haute-Mauricie. Et les lacs sont encore gelés. Même si le lac Saint-Jean est dégelé et calé, habituellement, c'est le repère. Le deuxième repère, c'est le Grand Lac Jacques-Cartier. Quand le Grand Lac Jacques-Cartier cale, là, tu dis les autres lacs vont commencer à caler. Mais moi, je prévois pas que les pourvoiries vont être capables d'ouvrir avant la troisième semaine de mai.
Jusqu'à après la fin de la Reine.
Après la fin de la Reine ou à la fin de la Reine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui profite de la fête de la reine pour avoir une journée de plus à la pêche. Donc, ils prennent une journée de congé, une journée de plus.
Ouais.
La fête de la reine, donc, ça lui donne un ben beau petit séjour de pêche.
Là,
mais il faut faire attention. La CEPAC va vous aviser quel chemin va être ouvert parce que c'est le prochain sujet.
Ouais.
Les lacs les sont accessibles, mais es-tu capable d'y aller?
C'est ça. Mais avant de parler de lacs, j'ai une question niaiseuse.
Vas-y, vas-y.
J'ai pas peur d'avoir de l'air niaiseux, là. Tu sais, quand le couvert de glace cale, on appelle ça le lac
cale. Oui.
Quand ça descend, est-ce que la glace, elle va écraser les poissons dans le fond?
Non. Ce qui va se passer, c'est qu'on appelle ça... On a vu ça avec les icebergs près de Terre-Neuve, où l'iceberg, il tourne de bord.
Hein? OK.
Il tourne.
Ça pivote.
Ça pivote. Donc, la glace dans les lacs, elle va fondre, elle va devenir transparente, elle va devenir grise foncée, puis là, elle va descendre. Donc, ça fait exactement comme si tu prenais un verre dans lequel tu mets de la glace. La glace... elle va fondre, mais elle monte au-dessus. Elle ne se mélange pas nécessairement. Puis dans les lacs, il va se passer la même affaire. Puis il y a une couche en plein milieu qui s'appelle la thermocline.
Okay.
Donc, à ce temps-ci de l'année, le turnover des lacs n'est pas fait. Donc, l'eau froide est à la surface. L'eau chaude est au fond. Donc, le poisson peut rester dans l'eau plus chaude. Je ne dis pas chaude. Elle va être quand même à quelques degrés, beaucoup de degrés plus bas, plus chaud qu'à la surface. Puis pendant qu'il va y avoir des grands vents, les grands vents de mai, ça va brasser l'eau et la glace va venir se mélanger.
Okay.
Puis elle va fondre graduellement.
Elle va finir par fondre.
Elle va fondre, mais acceptez que l'eau chaude du fond va monter vers la surface et l'eau froide d'en haut va descendre en bas. C'est ce qu'on appelle le turnover des lacs.
OK. Fait que le poisson, lui, est capable de vivre à travers ça,
puis il va s'adapter dans la ligne de thermocline. Donc, il va... Lui, les poissons, c'est comme un sous-marin. Ça a deux grands poumons qu'on appelle des vessies natatoires. Et ça fait comme un sous-marin. Quand ça veut rester stable à un endroit, ça monte en surface, ça remplit ses poumons d'air et ça redescend tranquillement, pas vite. On dit qu'ils descendent sa queue, ils redescendent droite en bas. Et quand ils arrivent à un endroit où leur corps devient bien, confortable, on appelle ça la thermocline. Là, ils vont arrêter d'expirer de l'air, les ballasts vont rester ouverts et la truite va rester très stationnaire sans dépenser un sou d'énergie.
C'est fun, ça. Fait que tu as moins d'énergie, moins besoin de manger.
Oui, excepté que, puis dans ce temps-là, ben, au début de saison, on va y revenir dans quelques minutes, quelques trucs de pêche à se servir
dans le début
de saison.
Oui, parce que j'ai une question, M. Lachance, justement. Il y a une question pour toi. Donc, en début de saison comme ça, on la trouve où, le poisson?
Bon, il y a des phénomènes qui vont être là. Donc, la cabane de castor. La cabane de castor, c'est un rituel. Pourquoi? Parce que la cabane de castor, il y a de l'eau en dessous de la cabane. Les gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il faut qu'il y ait de l'eau parce que le castor construit comme ça pour être capable d'aller au fond et de remonter vers sa cabane. Donc, s'il n'y a pas assez d'eau, la cabane, c'est un amoncellement de branches. Donc, ces branches-là, ils sont en suspension. Et le castor, il faut qu'il aille en dessous puis remonter. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il va chercher des branches de peuplier, sur les branches de peuplier, il y a des insectes, il y a des fourmis, il y a des chenilles, il y a n'importe quoi. Et quand il coupe son arbre, il transporte ça sur l'eau puis il amène ça jusqu'à la cabane. Mais quand il enfouit la branche pour la rentrer pour la donner à ses petits castors dans la cabane, bien, ces fourmis-là puis ces nymphes-là, ils tombent dans l'eau puis ils se noient. Et là, la truite, elle dit, c'est un endroit extraordinaire.
C'est un garde-manger.
J'ai qu'à me réinstaller là, puis la truite va me donner, le castor va me donner plein de nourriture. Donc, ça, c'est un bel endroit. Deuxièmement, une roche qui va être submergée. Donc, elle, pas submergée, mais elle va rester
immergée.
Immergée. Donc, tu as une grande portion de la roche dans l'eau, mais tu as une portion qui est au-dessus.
Se fait chauffer
par le soleil. Et l'eau alentour de cette roche-là devient plus chaude.
C'est réfractaire, évidemment.
Et puis, en même temps, ça va créer une vie aquatique. Donc, il y a des petits insectes qui vont commencer à venir graviter après cette roche-là. Et c'est un autre endroit où la truite va pouvoir aller chercher. Les arbres tombés. Donc, un arbre tombé est un apport de nourriture naturelle puis une cachette naturelle. Donc, on cherche les arbres tombés, les roches, les crans de roches, les fonds de baies sablonneux. Il y a des fonds de baies où on voit que ça avance graduellement.
Comme une plage.
Donc, c'est dans ces endroits-là, l'eau vient chaude plus rapidement et la truite va s'approcher de ça. Donc, le fond des baies, ce sont des bons endroits pour trouver le poisson.
Vois-tu, moi, je pensais que la truite était contente dans l'eau froide.
Non, bien, on entend froid puis froid, là.
Oui.
Tu sais, un matin, j'étais sorti culotte courte avec T-shirt.
Rentré par en dedans, là.
C'est ça, elle est déjà rentré par en dedans à mon âge, t'inquiète pas. Donc, il y a ce phénomène-là qui est là. Donc, c'est pour ça que c'est bien important que les pourvoiries avisent leurs clients quand les routes vont être disponibles, parce que bien des fois, ils vont leur dire, « Laissez, on a fait un stationnement, par exemple, à l'entrée. » Venez avec des quatre roues, au moins vous briserez pas trop le chemin, mais venir avec des pick-up comme le tien, là, chargé bien dur, vous allez tout briser le chemin, ils vont se scraper la route, puis ils vont être obligés de recommencer à travailler en juin.
Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un ici, Jean-Pierre, il dit, moi, la pêche, j'aime pas tant que ça, puis j'aime pas ça à la chasse non plus. Mais maudit que j'aime entendre Claude.
La pêche, c'est une passion, c'est pas une capture de poisson. La pêche, pour moi, c'est un voyage. Toi, t'es allé en Australie, ben moi, tu me dis... Je te donne le Japon un matin ou le nord du Québec. Moi, ça va être le nord du Québec.
Toi qui l'as parcouru, qui l'as pêché.
Au complet, j'ai fait le tour de la tête de vache. Regardez la province de Québec, on dirait une tête de vache avec la baie. Moi, je l'ai faite en hélicoptère. J'ai tout fait le contour. Donc, quand tu dis tout le contour extérieur, je l'ai fait.
T'as pêché là?
Partout. Donc, pendant 30 ans.
C'est vrai que ça, qu'il y a des espèces tellement grosses que tu n'es même pas capable de les sortir avec une canne à pêche ordinaire.
Oui, absolument. Il y a des grises. Les grises du Nord sont bizarres. Ils ont une grosse tête. Donc, tu vas prendre un poisson, tu vas arriver. Quand tu vas y voir la tête, tu dis ça y est, j'ai pris le monstre de ma vie. C'est une tête de truite grise d'à peu près 50 livres, puis le corps d'une truite grise d'à peu près 10 livres.
Ah, ouais.
Dépasser la tête, elle devient comme une anguille.
Ça ressemble à un beluga.
Comme une anguille.
Ouais.
La tête est grosse, pas difforme, mais grosse comme une vraie truite. Puis le corps est très, très mince.
J'ai connu une de même à Val-Belair.
Elle passe son temps à se battre dans le courant. Donc, elle dépense d'énergie. Le corps est petit, la tête bien grosse.
C'est bizarre, pareil. Hein?
C'est vraiment bizarre. J'ai pris du beau poisson dans le nord. Ma plus grosse truite, c'est 6 livres et quart. C'est pas un record. C'est un record
mais
pour moi.
Mais la tienne.
Oui.
Un record pour toi.
Oui. Mais Sylvie Vécard, avec une petite mouche numéro 16 fabriquée sur place, on avait fait un film là-dessus.
C'est malade.
Là, l'étau entre les jambes, en train de monter ta petite mouche en espérant. Et tu l'accroches après ta ligne, puis elle t'avance dans l'eau avec tes grands bottes. Puis là, t'étires ta soie à moucher de plus en plus loin. Et quand t'atteins le maximum, tu déposes ça. Et ça prend 5 secondes. La truite, elle l'a vu, elle ramasse ça. Puis quand t'arrives au bord, c'est 6 livres et quart, 6 livres et demi. C'est extraordinaire.
C'est beau ce que tu racontes. Justement, Claude, peux-tu nous parler des couleurs de l'heure dépendamment de la température? C'est-tu trop long de faire ça?
Non, ben, c'est-à-dire qu'on va y revenir. Si vous me permettez, là, ça sert à rien.
Oui.
Parce que quand on va pêcher, là, il va falloir pêcher d'une façon très, très lente, avec du monofilament très loin de la cuillère. Donc, il faut éloigner.
Là, présentement?
Là, toujours l'eau froide, l'eau chaude, c'est même technique. Donc, mois d'août, et le mois de juin, mai-juin, c'est la même technique. Ceux qui ont utilisé cette technique-là, qui m'ont écouté, ils vont tout dire qu'ils ont pris plus de poissons. Parce que c'est normal, t'éloignes ton leurre de ta cuillère et le poisson, il est encore très nerveux. Il voit le brillant de la cuillère, mais quand il va voir ton appât qui est à 8 pieds en arrière, ça court après ce qui est brillant. Donc, on recrée la chaîne alimentaire. C'est ça qui est important. Toujours penser à recréer la chaîne alimentaire.
C'est ça.
Ce sont où les insectes qui vont nourrir les petits poissons puis les petits poissons qui vont nourrir les truites.
As-tu déjà été un poisson de notre vie, toute l'eau, pour comprendre ça de même?
Bien, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de regarder.
Ouais.
Moi, une truite qui est prise, là, je me dépêche pas de relancer la canne à pêche. Je sors le carnet de notes. Je l'ai pris, c'est quoi, j'ai un baromètre, donc ma pression barométrique est quoi. Il est quelle heure? Ça, le calendrier des marées, il me dit que la marée est bonne entre 8h et 9h30. Okay. J'ai pris cette truite-là à 9h moins quart.
Okay.
Il faisait soleil, puis la température du lac, la température de l'eau est à 52. Puis je l'ai pris avec un thermomètre en profondeur où j'étais dans une température plus chaude.
Ça. Tu fais tout le temps ça, Claude?
Tout le temps. Donc, ça m'a donné...
Hey, tu dois avoir des calepins de notes. Et
ça m'a donné... Oui, mais là, maintenant, ce qu'on a fait, j'ai transféré ça sur Excel avec un tableau Excel beaucoup plus facile.
Ouais.
Tu es capable de te référer... 1962, quelle situation que tu avais, ben tu es capable d'aller chercher.
T'as-tu des notes des années 60?
J'ai des notes des années 60.
Tabarnouche, il est hot.
Ben, j'aime. C'est parce que pour moi, c'est ça que j'aime.
Est-ce que ça a changé au fil des années? Si, mettons, tu regardes tes notes des années 70 ou 80, puis tu regardes. Si tu compares avec les mêmes temps.
Ce qui a changé, c'est bien des fois, c'est la couleur des lacs. Il y a, par exemple, des lacs qui sont en train de s'atrophier. Donc, ils commencent à pousser des algues. Des champignons, des arbres, des arbres tombés. Donc, le lac change et la filtration du lac peut changer par la création d'une frayère ou l'abondance de ruisseaux. Après une grande pluie comme hier, là, les eaux sont noires. C'est pour ça qu'on va... Il y a beaucoup de sédiments dans l'eau. C'est pour ça qu'on va parler des couleurs un peu plus tard. Mais là, c'est ainsi, c'est pas ça, c'est... Le monofilament, loin derrière la cuillère, jusqu'à 8 pieds en ce qui me concerne, des compagnies comme Dugajo ou Etik ou peu importe, ont des hameçons de style président avec 4 pieds de monofilament. Moi, je rajoute 4 pieds de plus.
8 pieds.
8 pieds. C'est bien emmerdant quand tu viens pour rentrer le poisson parce que t'as entre la cuillère qui est à côté dans le bout de ta canne, t'as 8 pieds de monofilament. Donc, il faut que tu te lèves debout. Lever ton bras à l'air pour être capable d'amener ce poisson-là au filet pour ceux qui servent encore de filet.
Annie me pose la question, Claude. Pourquoi du monofilament plutôt qu'un fil fluocarbone?
C'est-à-dire que la tendance... On avait le monofilament conventionnel qui est un fil de plastique étiré par la chaleur pour atteindre un diamètre et une résistance précise. Ça, c'est la compagnie Trilène. Je suis allé à leur usine pour voir la fabrication des monofilaments. Et depuis quelques années, ils ont sorti du fluocarbone, qui est un monofilament, qui est quand même un filament pareil, un filament de pêche, mais qui va être habituellement invisible ou presque invisible et qui va avoir une résistance qui va être haute. Donc, tu vas avoir des plus petits diamètres pour la grosseur de la résistance.
Okay.
Donc, les gens aiment ça. Mais ça vrille pas moins, entre parenthèses, ça vrille pas moins.
Okay.
Tu as des lignes tressées qui ne vrillent pas, mais du monofilament au fluocarbone, quand tu t'en sers pour la pêche à la traîne, ça vrille. On a beau mettre des bons émerillons, ça vrille quand même un peu.
OK. Donc, les conseils de début de saison, bien là, on le sait, on va où est-ce que l'eau est un peu plus chaude ou on soupçonne qu'elle est un peu plus chaude.
C'est ça, puis à l'ensoleillement, bien sûr, on regarde le soleil, puis on se dirige vers là.
Mais ton barrage de castor, plus tard dans l'été, ça marche encore. Moi, j'ai déjà pêché.
Il marche toujours, le barrage de castor.
On s'accroche souvent, par exemple?
Oui, il s'agit de savoir comment pêcher, parce que le barrage, approchez-vous-en, vous allez peut-être déranger la truite quelques minutes, approchez-vous-en, puis regardez. Vous allez pouvoir le voir. Vous allez voir les branches. Le dôme est comme ça, mais les branches continuent en dessous.
Ben oui.
Donc, ça fait,
comme
je te dirais, 3-4 pieds d'écart, là, et même 5 pieds. Donc, plus ils ont amené des branches qui sont grosses, plus l'écart est grand, plus il faut que tu fasses attention où tu pêches pour ne pas t'accrocher.
J'ai une autre question niaiseuse.
Vas-y.
Un castor, ça ne mange pas ça, de la truite?
Non, ça ne mange pas de la truite.
Ça mange aucun
aliment? Non, ça mange du bois, ça ne mange pas de truite.
OK. Pourtant, il y en a beaucoup, là.
Oui, puis c'est comme les gens qui disent « Ah, un huard, ça mange 25 livres de truite par jour. » Ben moi, je peux dire que les braconniers puis les viandards mangent plus de truite que les huards.
On n'éliminera pas l'emblème du 1$. Là.
Non, absolument pas. C'est un oiseau qui est fantastique, merveilleux. Elle est fun à regarder avec un tempérament qui est vraiment curieux. Moi, j'ai vu des huards venir me voler ma truite pendant que je tentais de la ramener. Absolument, passant autour de la chaloupe. Quand c'est avec l'envergure d'elle en dessous d'une chaloupe, c'est extraordinaire.
Oh, les cœurs! T'étais-tu fâché?
C'était tellement beau. En plus, c'est que moi, j'ai toujours la caméra en avant.
Ouais.
Quand tu es en train de filmer une capture puis que ça t'arrive en même temps, les huards allaient donner la becquetée à son petit bébé huard, le mettre sur ses épaules, le cacher sur son aile. des scènes de pêche qui sont extraordinaires.
C'est à couper le souffle, puis on prend pas assez le temps.
Les gens qui viennent avec moi disaient, hey, vas-tu serrer ta maudite caméra, peux-tu pêcher un peu? Parce que quand j'ai un spot où il y a de la vie, ben j'aime ça filmer, je me fais beaucoup d'images, je me faisais des images. Et j'avais une banque d'images.
Tu dois avoir une banque d'images incroyable.
Oui, mais malheureusement, on est obligé de les détruire parce qu'il aurait fallu tout que je numérise ça et ça aurait coûté une fortune.
Ben oui. Ah oui, hein?
Avant ça, on était avec des mini-cassettes.
Oui. Ouais.
Les gens riaient de moi parce que j'avais des petites caméras. Et tout d'un coup, quand IMAX a sorti son film sur l'Everest puis qu'on s'est rendu compte que c'était un petit Sony VX1000 comme j'avais acheté, tout le monde riait de moi en disant « Tu feras pas d'émission de télévision avec ça. » Puis c'est avec ça qu'on avait réussi à faire plusieurs
aujourd'hui,
années.
Aujourd'hui, on a les GoPros. T'es-tu acheté des GoPros?
Je me suis acheté des GoPros. J'ai inventé une caméra sous-marine dès le départ pour être sûr de voir des captures sous-marines.
Ah oui, hein?
Et les gens trouvaient ça beau à l'époque parce qu'ils disaient « Il n'y a pas de caméra sous-marine, il n'y avait pas de drone, il n'y avait rien.
Ouais. »
Donc, j'avais créé ça avec une caméra étanche puis des tuyaux d'OBS que j'assemblais dans le bateau. C'était compliqué, mais ça donnait des résultats vraiment fantastiques.
C'était assez incroyable.
Ouais.
On parle d'un autre sujet parce que la pêche, c'est vraiment le fun. Puis on va revenir avec les couleurs de l'heure, probablement dans ta prochaine chronique. Là.
Ouais.
Tous tes secrets de pêche que Claude a. Il y en a, c'est une encyclopédie vivante, ce gars-là. Mais aussi, j'aime ça t'entendre chioler.
Oui, puis ça, c'est facile.
Là, c'est le fun. Ah ben... Je dis, Claude, tu sais, c'est un boomer, on s'entend. Là,
ben
ma génération plus vieille que la mienne,
puis
que j'apprends beaucoup de vous autres, Claude. Puis la circulation en ville. Hein?
Ben, écoute, moi, tu peux me dire un matin, là, Claude, on part pour Toronto, colle-toi à droite, là, on va arrêter de faire des pipis, puis se prendre un café, mais moi, je vais t'amener à Toronto.
Moi,
conduire, là, c'est comme toi, je fais des bouts de brousse, tu sais,
des road trips,
des road
pas
trips
ça.
J'aime ça, j'adore
ça.
Moi, conduire, j'adore ça. Ce que je déteste, c'est d'être stationné dans le trafic.
Ouais.
Puis à Québec, t'es rendu stationné dans le trafic.
Oh, c'est épouvantable.
Laurier est pas halable. J'ai voulu aller en arrière du CHUL cette semaine. Des entraves à circulation partout. Ils sont en train d'enlever toute la travée centrale du boulevard Laurier. Ils vont nous fermer sous peu René Lévesque, plus capable de faire d'accès.
Ouais.
Moi, je fais du transport adapté.
T'es chauffeur pour des gens à mobilité réduite.
Oui, puis ces gens-là ont besoin de sortir. Puis là, on est en train de les enclaver complètement. Je sais pas comment on va faire. Moi, je pense à changer d'emploi.
T'es-tu sérieux?
Parce que je suis tanné d'être dans le trafic. Cette semaine, ils ont fermé Henri Bourassa. T'arrivais à Henri Bourassa? Henri Bourassa fermé.
Oh, ils ont fermé de la faune aussi.
Ils ont fermé.
Pour rien, en plus.
Pour rien. Puis, bien des fois, tu vas dire, ils vont te mettre un kilomètre de long de Cône-Orange. T'arrives, une petite pépine, sont en train de faire un petit trou. Puis, il y a un gars qui est là, qui regarde, un chapeau blanc.
Mais en même temps, il faut protéger les travailleurs, Claude.
Bien, je le sais qu'il faut protéger.
Le monde est assez innocent que le cellulaire, là. Tu sais, tu comprends?
Je le sais.
Faut protéger les travailleurs. Fait que là, on prend plus de chance, on fait des 1 km pour un trou de lapin.
Prochain sujet.
Oui.
C'est pourquoi? Parce que les maudits travaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent les gens fous.
Ah oui.
Complètement débile. Donc, le soir, t'es tellement tanné d'être sur le boulevard Laurier depuis les gouverneurs, depuis près d'ici, là.
Ouais.
Puis tu commences là.
Je sais, Claude, je le fais
jamais,
tous les jours.
T'es jamais jusqu'au pont de Québec.
Ouais.
Ça te prend 2 heures, Jerry Bois.
Ouais.
Fait que les gens, ils sont plus courtois. Ils te laisseront plus passer. Admettons que t'as fait une erreur, moi, avec mon autobus.
Ben, juste apprendre à zipper dans le trafic. Personne n'est capable de faire ça. Tout le monde veut être en avant en premier.
Puis pourtant, quand tu t'en vas aux États-Unis, et tu es 80, tu rentres à 80, tu rentres dans ta place. Il n'y a pas de coup de freinage. L'autre prend sa place. Ils sont pas. On dirait que les gens ne comprennent pas comment faire ça. Puis les écoles de conduite, ben, ils ne le montent pas parce qu'ils montent aux gens à conduire lentement. Donc, quand tu suis une école de conduite, tu sais que c'est un jeune qui apprend à conduire ou une personne de n'importe quel âge qui apprend à conduire. Donc, t'es courtois avec eux autres. Mais la courtoisie n'existe plus. Puis moi, je suis plus capable de voir... J'avais une fête organisée là, pour un ami et c'était fait dans un restaurant de Québec. Et le restaurant s'est accoquiné la semaine passée à Marchand en disant que le tramway, c'était meilleur que le tramway. Fait que j'ai dit, c'est correct, la fête, c'est fini.
Je comprends le restaurant, j'ai même pas envie de le nommer, mais t'as raison, jamais je vais remettre les pieds là.
Moi non plus. Mon cousin, il est au courant que j'irai pas à sa fête parce que le restaurant, c'est un tliste de con.
Mais on n'est pas un peu boqué, Claude? On n'est pas un peu impatient?
Bien, je le suis impatient, mais moi, il faut que je fasse 7 heures par jour. Quand tu me donnes des clients jusqu'à 6 heures, moi, tu fais des clients jusqu'à 6 heures. Puis... Ma job, c'est de me rendre au point A ou au point B. Mais si tu me mets dans une contrainte où, en réalité, il m'a passé 1 heure et quart, puis je vais être en retard sur le prochain, puis en retard sur le prochain, parce que On planifie rien, non, c'est non, ça, la c'est ville ça. De Québec. C'est mal planifié.
L'enfer, Nick. Toi pareil. Là. Tu prends Laurier, là, c'est l'enfer.
Ah, je prends plus Laurier.
Ah, tu prends plus
j'ai
Laurier?
Pris l'habitude, une fois que j'ai passé le pont, que ce soit Québec ou La Porte, je prends Champlain.
Ah, OK.
Puis je monte la côte Gilmore. Oui, je fais un petit détour.
Mais c'est
mais
pas long.
C'est moins pas long. Puis au printemps, puis l'été, sur le bord du fleuve. C'est écoute, beau. C'est beau. Ça, c'est vraiment une belle route, Champlain.
C'est,
vrai,
c'est la place.
C'est un beau spot de pêche.
Un spot de pêche en dessous du pont de Québec. Là, c'est un spot de pêche extraordinaire. Puis juste à côté, vous avez l'aquarium de Québec. Puis dans la montagne, remarquez bien ce qu'il y a là. Il y a deux grands tuyaux qui descendent. Ça, c'est l'eau excédent des bassins de l'aquarium.
OK.
Donc, qu'est-ce que ça sent?
Il y a des sédiments, puis il y a de l'odeur d'otarie là-dedans.
Ça sent le poisson, ça sent la nourriture. Ça, ça se jette dans le fleuve. Et quand tu t'en vas là, va-t'en là à marée basse pour voir où sortent les tuyaux. Tu y retourneras à marée haute, en marée montante. Là, le doré s'approche de là pour venir se nourrir.
Ah, le coquin.
Ah oui, parce que c'est sa place. Mais il y a des grosses roches. C'est accrochant pour pêcher. C'est incroyable. Mais il faut que tu y ailles à marée basse, complète, pour voir le phénomène. À te prendre des notes. Moi, je vais là, je fais des petits graphiques.
Encore les notes.
Il y a une roche à gauche, il y a une roche à droite. Ça l'est plus dangereuse. Il y a une cavité au centre. Tu vois tout ça à marée basse.
Ben oui.
À marée haute, tu es sur le bord, tu dis, OK, là, le doré, là, il va s'approcher de la grosse roche. Mais aller déposer ça là. Bing. Attention, deux, trois coups, parce que là, la roche se continue, puis elle peut être coupante. Tu essaies, t'en perds un, t'en raccroches, t'en remets un autre. Tu sais, t'as pas le choix d'essayer, mais c'est un endroit extraordinaire.
Tu sais, on chiale le trafic puis tout, mais la planification des travaux, on fait quoi avec l'autre?
Bien, c'est-à-dire que je comprends pas fermer Henri IV comme ils ont fait cette semaine.
Oui.
Fermer
Henri IV. Pour défaire le viaduc.
Pour, c'est ça. Pour, en réalité, pour pas grand-chose.
Oui.
Mais juste une fois que tu as sorti du viaduc, tu as besoin d'avoir une autre rue. Ils décident de fermer l'autre rue.
Oui, c'est ça que je comprends pas. Puis ça, c'est vrai, là.
Puis là, tu sais, tu viens pour sortir, ils l'ont fermé. Pourquoi tu l'as fermé? Parce que tu viens de faire en bas, finissez en bas.
Après ça, va, en haut.
Après ça, en haut.
Mais oui.
Mais comment? Ils creusent des trous partout et on m'a expliqué que, justement, c'était pour pas perdre les contrats. Donc, on t'a promis qu'on ferait ce job-là dans le courant de l'été. Donc, on creuse le trou, on met des pylônes, on calife notre camp, on va te creuser un autre trou. Donc là, il était supposé y avoir 1100 chantiers routiers dans la ville de Québec cet été.
Ah, c'est dégueulasse.
Fait que j'ai hâte de voir. Là, en fin de semaine, j'ai vécu, pas en fin de semaine, mais cette semaine, j'ai vécu quelques phénomènes. Et j'ai dit non, si jamais c'est continu comme ça, vous le savez, je suis disponible. Je dis pas que je veux m'en aller parce que la compagnie de laquelle je travaille est extraordinaire, sans les nommer. C'est des amours, ces gens-là, mais excepté que...
Ça arrive sud, hein?
C'est pas le... Oui, c'est ça arrive sud.
Oui, c'est ça. Ah, je connais ce que tu veux dire. Ah, bien, écoute, regarde, bon anniversaire en retard de la part de certains auditeurs.
Merci, ben oui.
Voilà. Et toujours le fun de jaser de pêche. Et là, ta prochaine chronique, j'ai une demande spéciale. La couleur des leurres.
On va faire ça.
Aussi, j'aimerais ça, quand on s'accroche, y a-tu des trucs?
Oui, je vais vous donner des trucs pour se décrocher.
Parfait, ça serait le fun. Merci, Claude Roy.
Merci, les amis. Bonne fin de semaine à vous autres.
On pourrait faire une pause?
Il faudrait.
Puis là, comme Bouchard n'est pas là, ça se peut qu'on se mette de la musique, hein?
Écoute, moi, toujours partant.
Ouais, moi aussi. On revient, ce sera pas long.
Les matins, mettez
le show du matin week-end
sur la table.
Radio X.